C'est le côté collectif, certainement. Et on a rappelé ce passage si beau d'Éphésiens 5, c'est de l'assemblée qu'il s'agit. Et puis de l'autre côté, le cas particulier de Pierre, qui est présenté avec plus de détails, parce que Pierre, bouillant, s'est opposé. Et qui oserait dire qu'il n'était pas de bonne foi, qu'il n'était pas parfaitement et complètement sincère. Alors le cas particulier de Pierre, qui est traité avec plus de grâce encore par le Seigneur Jésus, je crois insiste plus sur ce côté personnel. Et nos frères l'ont bien expliqué. Notre vie professionnelle, personnelle, est de plus en plus difficile dans un monde de plus en plus méchant. Mais ne négligeons pas pour autant le côté collectif. Lorsque la cuve d'airain était là pour les sacrificateurs, c'était les sacrificateurs qui entraient dans le sanctuaire comme représentant le peuple entier. Maintenant, nous sommes ensemble une famille sacerdotale. Donc nous avons besoin des soins du Seigneur et les ressources sont exactement les mêmes pour le cas individuel ou le cas collectif. C'est la parole et le Saint-Esprit. Chose remarquable d'ailleurs, ce sont exactement les mêmes ressources pour la conversion. Le don de la vie éternelle, révélé à Nicodème en Jean 3, être né d'eau et de l'esprit. C'est par le Saint-Esprit que la parole est appliquée au cœur de l'assemblée pour l'amener en communion avec son Seigneur et est appliquée au cœur de l'un et de l'autre d'entre nous pour nous restaurer ou nous maintenir dans la communion avec le Seigneur, dans la communion avec le Père. Quelque chose qui a été d'un immense secours, et je le passe à nos jeunes parce que nous avons tous des difficultés dans la vie, c'est de repenser à ce passage de Luc 22 où le Seigneur, et un frère l'a bien expliqué tout à l'heure, le Seigneur, ça n'est pas notre demande qu'il s'occupe de nous. Ça n'est pas au moment où nous avons péché, c'est avant. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Pierre a prié pour son cher disciple avant, pendant, le Seigneur a prié pour son cher disciple avant, pendant et après. Ce regard d'amour et de lumière dans le palais. C'est le dernier souvenir que Pierre a gardé. Son maître, il avait d'immenses illusions, le disciple que je... Pierre, est-ce que nous n'avons pas d'immenses illusions sur notre propre état? Est-ce que nous ne sous-estimons pas terriblement les épouvantables dangers de ce monde? Et on arrive à 70 ans, on a encore des illusions. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup de compassion pour nos jeunes de 20 ans qui en ont encore des illusions. Vous sous-estimez vos forces, jeunes. Nous n'avons pas à le faire. C'est la grâce de Christ qu'il faut estimer à sa valeur. Alors, et je le dis parce que j'ai eu une conversation il y a quelques jours avec quelqu'un qui avait traversé des circonstances difficiles. Cette âme a été réconfortée, encouragée et finalement est sortie de ce tunnel par cette pensée que le Seigneur avait prié pour Pierre avant. Alors, Satan, rappelez-vous, lorsque nous sommes tombés, Satan, qui nous a voilé jusqu'à notre faute le danger, parce que nous nous faisons des illusions, et c'est Satan qui les entretient. Plus tard, nous aurons peut-être l'occasion de penser à Judas. Bon, Judas n'avait pas la vie, mais Satan ne lui avait pas dit les conséquences de cette vente qu'il avait faite du Seigneur. Alors, Satan cache les conséquences des fautes jusqu'au moment où nous tombons. Et après, il se renverse, et là, il accable. Pierre aurait pu sombrer dans le désespoir. Il avait la vie de Dieu. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Le Seigneur ne l'a pas permis. Le Seigneur a prié justement pour cela. Donc ne nous laissons pas séduire par Satan pour nous conduire à une faute, mais si nous sommes tombés, ne laissons pas non plus Satan nous accabler par le désespoir. Et là, l'action du Seigneur Jésus est à la fois préventive et curative pour nous relever.
Il y a un aspect de l'eau qu'on vient de pas négliger, cette eau dont on a déjà parlé, qui est sortie du corps mort du Seigneur. Eau de purification. Elle a cette portée que c'est l'application de la mort de Christ à l'âme qui purifie, pour nous placer comme lui-même au-delà de la mort.
L'un des trois aspects du sacrifice pour le péché, c'est justement dans Nombre 19, c'est en rapport avec la souillure, en rapport avec la culpabilité, c'est Lévitique 4 et 5, et en rapport avec l'acceptabilité devant Dieu, c'est Lévitique 16. Il y a le côté donc de la culpabilité, de la souillure et de l'inimitié. Et ce côté-là de la pluie de la souillure est justement en rapport avec la vie pratique des saints et de l'assemblée.
Il faut bien voir que la place que le Seigneur désire pour nous ici, cette place part avec lui. Le Seigneur disait au début de ce chapitre de passer de ce monde au Père. Et Jean-Luc a fait bien remarquer qu'après, il nous est parlé de ces trois de Dieu. Alors, ce que le Seigneur désire pour nous, c'est d'avoir une part avec lui, là-haut, là où il est. Il est. C'est un sauveur céleste que nous avons. Et cette part, c'est une part qui est céleste. Bien sûr, le Seigneur est avec nous par le Saint-Esprit, dans le monde actuellement, pour prendre soin de nous, pour, en quelque sorte, cet avocat qui prend en cause nos intérêts. Mais notre part, la part que le Seigneur désire pour nous, elle est céleste. Et nous avons vu que le sacrificateur, il ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire sans s'être préalablement lavé les pieds. Et nous ne pouvons en aucun cas avoir une part avec le Seigneur si nous ne nous lavons pas et nous n'avons pas les pieds lavés plutôt. Et il faut bien réaliser aussi que chaque fois que nous sortons de notre maison, ben, nous sommes souillés. Et c'est très clair. Chaque fois que le sacrificateur sortait du sanctuaire et rentrait dans le camp, il était souillé. Ne serait-ce que par ce qu'il voyait. Jean nous dit dans le dernier chapitre de sa première épître que le monde entier gît dans le méchant. Et bien, nous sommes tout le temps au contact du monde entier. Et quand le monde entier gît dans le méchant, c'est comme si nous touchons un corps mort. Si bien que nous avons à réaliser qu'il y a quelque chose, il y a une souillure que nous avons contractée et qu'il nous faut nécessairement passer par ce lavage des pieds que le Seigneur opère pour pouvoir avoir une part avec lui. Alors, rapidement, il y a ce que nous présente la première épître de Jean, qui est le côté de l'avocat. L'avocat, c'est quand nous avons péché, le Seigneur, avec la parole, par la parole, l'applique avec la puissance de l'Esprit à notre état du moment qui nous amène à reconnaître ce que nous avons fait, à le confesser pour pouvoir avoir cette communion avec lui. Et il y a le travail du sacrificateur qui, avec cet eau également, nous fait voir préventivement quelles sont nos pensées. Un peu comme le dit Hébreux 4, car la parole est une épée. On pourra le lire également, Hébreux 4. Verset 12, car la parole de Dieu est vivante, opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est le rôle du sacrificateur qui, préventivement, voit notre état et, avec la parole appliquée avec le secours de l'esprit, nous amène à revoir les choses devant le Seigneur et à préventivement à les enlever. Alors, il y a quelque chose de plus là dans Jean 13 que nous avons ici. Nous avons dit que quand nous sortons de la maison, nous sommes souillés. Alors nous avons besoin, parce que nous avons été au contact du mort, nous avons besoin d'avoir les affections rafraîchies pour le Seigneur. Parce que quand nous sortons de chez nous, dans le monde, ce n'est pas là où nous trouvons quelque chose qui rafraîchit nos affections pour le Seigneur. Alors le Seigneur désire que nous puissions avoir les affections rafraîchies pour lui, pour avoir notre place continuellement dans le sanctuaire. Si les sacrificateurs se lavaient les pieds avant de pénétrer dans le lieu saint, notre place, celle que le Seigneur veut pour nous, c'est dans le lieu très saint. Et combien, tel qu'il nous est parlé de Dieu ici au verset 3 de notre chapitre, combien nous avons besoin de ce lavage de pieds, nous avons besoin de nous laisser faire pour que la parole rafraîchisse nos affections pour le Seigneur afin d'avoir une place, une part avec lui. Notre part, elle est céleste et c'est là où Dieu nous veut. où le Seigneur, pardon, nous veut.
Alors, ce verset 6, il vient donc à Pierre, parce que nous pourrions essayer de nous représenter la scène. Le Seigneur avait peut-être déjà lavé les pieds, disons, de Jean, de Matthieu, d'autres disciples. Et il nous semble voir ce qui se passait dans le cœur de Pierre. Il dit, mais enfin, comment se fait-il que les disciples laissent le Seigneur, on pourrait dire de gloire, leur laver les pieds? C'est complètement déplacé, c'est quelque chose qui ne convient pas du tout. Cela, on pourrait dire, éclate dans ses paroles quand il dit « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Et peut-être, chers frères et sœurs, que nous avons beaucoup à apprendre par ce que dit Pierre ici. Parce que même au milieu de la chrétienté, disons, oui, on dit le Seigneur, il est tellement grand, il est tellement élevé. Alors, on a même été jusqu'à oublier qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ. Alors, il y a d'autres intermédiaires, nous le savons bien, que l'on propose. Et tout cela, nous le comprenons par cette scène précieuse, c'est totalement faux. L'amour du Seigneur à l'égard des siens est si grand qu'il s'occupe de chacun d'eux en particulier, comme si il était mort simplement pour moi, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une chose que nous devons bien saisir. Nous chantons dans un cantique plein de sympathie, de tendre bonté, jamais tu n'oublies aucun racheté, c'est toi qui nous aides dans chaque combat, etc. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux si nous réalisons, à travers, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Luc, les fausses questions ou les fausses exclamations, ici on pourrait dire, de Pierre, eh bien le Seigneur va nous apprendre, oui Pierre, c'est toi que j'aime. Et tu dois te laisser faire. Sinon, tu n'auras pas de part avec moi.
La question que pose Pierre au Seigneur, exclamation plutôt, on vient de nous le dire, manifeste son ignorance. Et pourtant, elle avait pour motivation, on peut dire, la conscience qu'il avait de la grandeur de celui auquel il avait affaire. Ça nous montre combien nos cœurs sont rusés et ce que la chair peut produire en nous, alors même que nous sommes non seulement des enfants de Dieu, rachetés du Seigneur, mais qu'encore il y a dans nos cœurs de véritables affections pour lui, et qu'une vraie appréciation de ce qu'il est, eh bien, ce n'était pas suffisant pour que Pierre accepte ce service de la part du Seigneur. L'ignorance de nos cœurs. Bien sûr, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est la raison pour laquelle aussi le Seigneur peut lui dire « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras ». Dans la suite, lorsque l'œuvre aura été accomplie, lorsque le Saint-Esprit aura été envoyé, qu'il vous communiquera les choses qui me concernent. Mais nous avons là le tableau de ce qu'est notre cœur naturel, alors même que nous avons reçu une vie nouvelle par la nouvelle naissance. Et les trois questions mettent en évidence quelque chose de ce qui fait obstacle à ce travail du Seigneur. Il y a d'abord l'ignorance, et puis ensuite, on pourrait dire, c'est l'affirmation d'une sûreté de soi, d'une volonté, d'un propos arrêté. Tu ne me laveras jamais les pieds.
trouvé sa source en quoi, en partie dans son ignorance, dans son incompréhension, en partie dans une volonté toujours prête à agir et à diriger son chemin, ce qui le concerne. Et ici, il ne voyait pas d'un bon œil que le Seigneur fasse cela, et il n'hésite pas à lui dire, tu ne me laveras jamais les pieds. Et puis la troisième question qu'il pose alors, lorsqu'enfin il se soumet à ce que le Seigneur veut opérer à son égard, il dit, Seigneur, non pas mes mains seulement, mais aussi mes mains et ma tête, mais pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. Là, on voit que c'est, on peut dire, l'inintelligence. Ce qu'il n'avait pas compris, ce n'est pas seulement de l'ignorance, c'est l'inintelligence. Est-ce que nous avons conscience à quel point, en présence justement de la grandeur même du Seigneur, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il opère en notre faveur, il y a en nous la manifestation de tous ces traits qui font obstacle à ce que le Seigneur veut opérer. Et qui peut prendre des aspects très... qui se recommandent beaucoup à nous-mêmes et même peut-être à d'autres. En particulier ici, il semble que Pierre ait vraiment à cœur que la seigneurie du Seigneur soit bien reconnue par tous, et certainement pensait-il que les autres, comme on vient de le dire, ne le faisaient pas suffisamment. Eh bien, il errait, ne connaissant pas vraiment la grâce de Christ dans son exercice envers les siens. Mais alors, en présence de ces questions, effectivement, ce qui brille avec un si vif éclat, ce sont les réponses du Seigneur. Non seulement dans leur contenu, qui en quelques mots mettent effectivement toutes choses à leur place, mais aussi quant à la douceur avec laquelle le Seigneur répond sans aucune manière s'offusquer de ce que Pierre pouvait poser des questions qui manifestaient tellement son manque d'intelligence. Il lui répond par trois fois avec une douceur parfaite. On pourrait dire, bien sûr, c'était Pierre, et il savait que dans l'affection de Pierre, il y avait des affections pour lui, et c'est vrai. Mais quand nous voyons dans l'Évangile de quelle manière il a répondu à ceux qui disaient, ne savons-nous pas que tu as un démon ? Il leur répond tout simplement, moi j'honore mon Père, et vous ? Vous jetez du déshonneur sur moi. Bien-aimé Sauveur, qui a été placé en présence de tant de manifestations de contradictions, d'outrages, mais qui a toujours manifesté une telle grâce envers tous les hommes. Et on pourrait dire encore combien plus envers tous les siens.
Il y a un autre enseignement tout à fait intéressant là, qui est celui par lequel le Seigneur nous invite quand il fait quelque chose à une grande reconnaissance passive en regardant ce qu'il fait et en le laissant faire. Et ça n'est pas la tendance du jour. La tendance du jour, c'est de faire valoir quelque chose de soi et c'est de contester. Parce que lorsque Pierre lui dit « non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête », on dirait volontiers « oui, les pieds, la marche, les mains, les actes, la tête, les pensées, c'est donc quelque chose de tout à fait sensé ». Mais ce qu'il y a derrière, c'est que Pierre désire faire valoir quelque chose. Et quand le Seigneur fait quelque chose, il le fait bien, il le fait parfaitement, il le fait exactement comme il faut le faire, et ce qui nous revient, c'est de le laisser faire avec reconnaissance. Alors il en résultera quelque chose. Et en lui, nous trouverons une place par laquelle l'œuvre de Dieu s'accomplira. Mais si nous avons une tendance à faire valoir quelque chose ou à la contestation, alors nous ne pouvons pas avoir de part avec lui.
Pierre a le mot de Seigneur dans la bouche. Et par son attitude, dans la première fois, il a l'air de dire, on l'a vu, il veut mettre la... Il conteste peut-être en... Voilà, le Seigneur se met en serviteur et commence, toi le grand Seigneur, tu fais ça. Alors il a le mot de Seigneur dans la bouche, et en ne se soumettant pas au Seigneur, il montre qu'il ne reconnaît pas le Seigneur dans son cœur, au fond. Puis quand il redit Seigneur ensuite, il lui dit, mais tu veux me laver simplement les pieds, mais il faut faire plus. Il dicte au Seigneur ce que le Seigneur doit faire. Il ne reconnaît pas non plus le Seigneur dans son cœur comme celui à qui il se soumet, qui a l'autorité. Plus tard, quand il s'agira d'aller vers Corneille, et qu'il y aura la voix qui lui dit « Tu es mange », il dira « Non, toi, Seigneur ». Il dit « Non, Seigneur ». Il l'appelle Seigneur, il lui dit « Je te suis soumis », et il dit « Non, il refuse ». Est-ce que cela ne nous ressemble pas souvent? Nous disons « Seigneur ». Et combien de fois le nom de Seigneur est dans notre bouche, mais dans ma vie, dans mon attitude avec lui, est-ce qu'il est le Seigneur, celui à qui je me soumets, celui que je laisse agir dans ma vie, celui que je désire honorer, mais en le laissant agir, lui, comme il le veut? Et alors, le Seigneur s'occupe quand même de Pierre, on l'a vu, comme il s'occupe de chacun d'entre nous. Il s'occupe en répondant à ses questions jusqu'au bout, jusqu'à ce que Pierre se laisse laver les pieds. Et puis il s'occupe en lui disant, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, tu le comprendras par la suite. Je m'occupe de toi, ce que je te fais, tu comprends pas le sens tout de suite. Mais tout à l'heure, alors on a parlé du Saint-Esprit, c'est vrai que cela va l'éclairer, mais aussi dans notre vie. Il y a souvent des circonstances, on ne comprend pas. Et savoir remettre les choses au Seigneur, parce que ce que tu fais aujourd'hui, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas, mais je sais que c'est pour mon bien. Et ça, je le comprendrai mieux par la suite. Mais je te laisse agir. Laissez le Seigneur agir dans notre cœur, dans notre vie, simplement.
Une autre chose encore, là, c'est que Pierre se hâte. Et il prend la parole tout de suite. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au début du chapitre 5, nous entendons « Ne te presse point de ta bouche, que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu. Un peu avant, approche-toi pour entendre d'abord. » Et lorsque le Seigneur est en train d'opérer quelque chose, il faut soigneusement le regard est faire, nous l'avons dit, avec reconnaissance et surtout ne pas se hâter. L'homme naturel, dans la pensée de trouver une place, se hâte toujours. C'est le comportement de Pierre. Apprenons aussi cette leçon. Lorsque le Seigneur fait, regardons le faire en cherchant l'instruction qu'il veut nous donner et ne nous hâtons pas d'intervenir avant d'avoir saisi véritablement ce que le Seigneur veut apprendre.
Tu le sauras dans la suite. Est-ce qu'il n'y a pas ici aussi une manifestation de toute connaissance du Seigneur, n'est-ce pas? Le moment était proche où Pierre, comme chacun de nous, aurait besoin d'une façon aussi, j'ose dire, toute particulière que le Seigneur lui lave les pieds quand il l'aurait renié.
Au chapitre 21, que Pierre a pu comprendre les soins du Seigneur.
En passant qu'au chapitre 21, le comportement de Pierre n'est pas du tout celui que nous avons dans le chapitre 13. Pierre ne se hâte pas là, précisément. Progressivement, il se retire pour dire finalement au Seigneur, tu sais toutes choses, alors toi tu sais. Alors qu'ici, Pierre s'avance comme si lui savait quelque chose. C'est intéressant de faire la comparaison entre le comportement de Pierre ici et son comportement au chapitre 21.
On nous a dit tout à l'heure que nous étions tous des pierres. Et on pourrait se poser la question maintenant, qu'est-ce que je partage avec le Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut que je partage avec lui? On a dit que c'était un partage avec un Christ glorifié, mais quand même concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce que je partage avec lui? Bien, il va nous dire, le Seigneur Jésus, ce qu'il veut partager avec nous. Et il suffit de lire dans les chapitres qui suivent, une part avec lui. Dans le chapitre 14 et au verset 27, nous allons nous poser la question, est-ce que je vis ça? Et alors, à ce moment-là, oui, j'ai une part avec lui. Verset 27, je vous laisse la paix. Ça, c'est la paix que nous avons, la paix avec Dieu. Mais je vous donne ma paix. Voilà, il nous donne ça, il veut que nous partagions sa paix. C'est quoi cela? Eh bien, le Seigneur Jésus a connu cette paix, c'est de faire la volonté de son Père. La joie de faire la volonté de son Père, c'était cette paix qu'il vivait comme homme sur la terre. Et même quand on l'outrageait, il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à lui. Il jouissait de la paix. Est-ce que nous jouissons aujourd'hui de la paix de la communion? Dans le chapitre 15, il veut partager encore quelque chose avec nous au verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Est-ce que nous jouissons de l'amour du Seigneur? Est-ce que quelque chose fait obstacle à cet amour? Est-ce que, justement, nous trouvons pénible d'accomplir les commandements du Seigneur? Non pas la loi, mais les commandements du Seigneur. Il désire bien des choses pour nous, et cela, si nous l'accomplissons, nous jouirons de son amour. Quelle est notre relation d'amour avec lui? Et puis si on continue, le verset ici, « Je vous ai dit, verset 11, ces choses, afin que ma joie soit en vous. » Et que votre joie soit accomplie au fond de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes heureux, pleinement heureux de cette relation avec lui? Ou est-ce que nous ne sommes déçus, que nous sommes amers? Alors là, nous avons perdu cette part avec lui. Alors nous avons besoin que nous enlévions tous ces obstacles. Seigneur, oui, je ne jouis pas de cette part avec toi. Fais dans ma vie pour que je retrouve cette paix que je n'ai plus, que je retrouve cette joie que je n'ai plus, que je jouisse de l'amour dont je ne jouis plus. Et puis dans le chapitre 17 et au verset 22, « Alors, et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, la gloire. » Déjà, nous sommes des saints glorifiés. Nous ne sommes pas des gens qui se lamentent de notre faiblesse, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est là comme des pauvres personnes au milieu d'un monde tellement difficile et on n'y arrive pas et on est comme des chrétiens en défaite, complètement qui croient au mensonge, qui dit « mais vous ne pouvez pas vivre ce que vous professez, c'est impossible ». Non, nous sommes déjà glorifiés en position, mais dans notre vie. Nous ne vivons pas de défaite, mais de victoire, avec celui qui a été le grand victorieux, celui qui est glorifié, notre part avec lui. Alors cette part céleste, c'est de jouir de Christ ressuscité, glorifié. Mais est-ce que, justement, en ayant vu simplement ce que le Seigneur nous a dit dans ces quelques versets, est-ce que je peux dire maintenant, oui, j'ai une part avec lui? Ou alors, est-ce que j'en ai perdu beaucoup?
Si ces choses nous les réalisons par la grâce, par la foi, nous serons capables justement de supporter les souffrances. Vous aurez de la tribulation dans ce monde. Et les souffrances prennent une autre valeur. Si nous goûtons véritablement dans le fond de notre cœur, le fait que nous avons la joie, la paix, la gloire de Christ.
On remarque dans ce passage beaucoup d'agitation de la part de Pierre, beaucoup de volonté. il y a un autre disciple, on en a déjà parlé, de Jean, il est dans le sein du Seigneur, il n'est pas agité pour autant. Il compte sur le Seigneur, il a les secrets de Christ, il est près de lui. On peut noter aussi qu'on le retrouve lui seul à la croix. Il est là, au pied de la croix, lui seul. Il a les secrets de son maître, mais il a aussi la confiance de son maître, et son maître lui confie une mission bienheureuse. Voilà tout le secret de la proximité avec Christ.
Avec lui. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Tu maintiens mon lot. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est échu.
Oh.
Et au verset 12, « Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Je ne parle pas de vous tous, moi je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyiez que c'est moi. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit, « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui ils parlaient. Or l'un d'entre ses disciples, que Jésus aimait, était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fit signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, lequel est-ce ? » Jésus répond, « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. » Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt. Or, il était nuit. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera. Enfant, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous vous aimiez, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu laisseras ta vie pour moi ? En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. »